Radio Kapi. Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est très précisément 18h. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. Les léopards de la RDC reçoivent demain vendredi après-midi les lions de l'Atlas du Maroc pour un match de barrage de la phase aller du Mondial Qatar 2022. D'ores et déjà, de nombreux Congolais prédisent la victoire tandis que d'autres s'attendent à un match difficile. À Bukavu, il y a baisse de la capacité de production de la centrale hydroélectrique de Ruzizi 1. C'est suite au détritus charrié quotidiennement du lac Kivu jusqu'au barrage, d'où les récurrentes coupures d'électricité dans la ville. Notre invité, c'est le secrétaire exécutif du Conseil des ONG du Kasaï Central. Albert Kyungu affirme que ce consortium vient de produire un recueil d'une centaine d'adages et proverbes Luba sur les femmes de la zone qui sont mises à l'arrière-plan suite aux coutumes avilissantes. Voilà pour les titres, madame, messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Au micro, Pascal Masirika, Polydor Basunga est sur les manettes. Sport football pour commencer votre journal. Les léopards de la RDC seront aux prises demain vendredi après-midi avec les lions de l'Atlas du Maroc au stade de Martyrs de Kinshasa. Ce sera pour un match de barrage comptant pour la phase aller du Mondial Qatar 2022. L'événement est très attendu par tous les Congolais. La dernière participation de la RDC à la Coupe du Monde remonte à 1974. De nombreux Congolais prédisent la victoire. Beaucoup d'autres s'attendent à un match difficile. Des propos recueillis ici à Kinshasa par Priscilla Bajoko.
Mon pronostic pour le match de demain est de 2-1. C'est que nous allons gagner. Nous souhaitons toutes les bonnes chances à nos léopards face à l'équipe marocaine. Je crois que demain, ça sera du show. Je vois que tous les joueurs sont vraiment motivés et nous leur encourageons. Nous leur disons que nous sommes ensemble avec eux.
Pour le match de demain, moi, je suis du côté de mon pays. Donc, je crois que nous allons gagner le Maroc, même 3-0.
Je pense que le match sera serré, d'autant plus que c'est un match de barrage pour la Coupe du Monde. C'est comme le dernier ticket pour accéder à la Coupe du Monde. Déjà, ça sera un match très serré. L'équipe marocaine viendra sûrement pour essayer de contrer les assauts congolais. Ça, c'est évident. Mais seulement, je pense que vu que les Congolais joueront devant leur public, je pense que ils ont quand même cette chance-là de remporter le match.
Je vous amène maintenant à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, où la centrale hydroélectrique de Ruzizi 1 connaît actuellement une baisse de production à cause de la pollution du lac Kivu. Des déchets jetés dans le lac Kivu échouent à ce barrage et affectent tout son système de fonctionnement. Cette situation est à la base des coupures récurrentes d'électricité dans la ville en cette période. Cynthia Bachizi s'est rendue à ce barrage. Voici son reportage.
La centrale Ruzizi 1 a été construite de façon à fonctionner avec 4 machines. Cela permet de produire 30 MW lorsque elle tourne à plein régime. Mais voilà, ces ordures empêchent l'eau d'entrer dans les turbines. Conséquence, ces machines ne savent plus produire leur puissance nominale. Lievin Kizungu, chef de production.
À ce moment-là, nous devons baisser sensiblement encore la production pour que les saletés puissent être facilement enlevées. Et pendant ce moment-là, c'est d'abord le délestage dans la ville. Nous demandons à la population d'éviter de jeter les détritus dans le lac parce que non seulement ça nous préjudicie ici à la centrale dans la production de l'énergie électrique, mais aussi les consommateurs qui est la population se trouvent lésés. Ces déchets-là, à la longue, viennent endommager ces machines. On risque même de les arrêter complètement.
La SNEL assure qu'elle effectue au quotidien des opérations de nettoyage, mais l'entreprise a été surprise cette fois par la quantité d'immondices retrouvées sur son site. C'est ainsi qu'elle plaide également auprès des autorités pour qu'il y ait des mécanismes contraignants afin de s'assurer de la propriété du lac Kivu. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Kapi.
Sud Kivu encore avec la reprise du trafic routier hier à Sangué dans le territoire d'Uvira où la circulation avait été perturbée après la destruction du pont sous la rivière Sangué. La terre remblayée avait été emportée par les eaux de pluie. Le jeune, les transporteurs et les autorités locales se sont mobilisés pour rétablir la circulation avec le soutien de casque bleu de la MONUSCO. À Uvira, la correspondance de Fiston Goma Mayabala.
C'est dans une ambiance de cohésion que ces travaux ont été vite faits. On pouvait observer les jeunes se mobiliser aux côtés des casques bleus de la MONUSCO pour remplir les fossés d'effondrement devant les ponts sur la rivière Sangue. Pendant 2 jours de pluie diluvienne, on provoquait une crue de la rivière Sangue empêchant la traversée des rivières d'un bout à l'autre de la route. Mercredi, un camion a tenté de forcer le passage lorsqu'il s'est embourbé dans la rivière, bloquant même les véhicules équipés de traction de traverser. Pendant 6 heures, les activités socio-économiques ont été paralysées sur l'axe Sangue-Bukavu et Sangue-Uvira. Aucune patrouille de casques bleus de la MONUSCO n'a pu être menée sur la RN5 alors que des centaines de véhicules et motos étaient bloqués de part et d'autre du pont. Pour rappel, les ponts constitués de conteneurs avaient été jetés provisoirement sur la rivière Sangue par la MONUSCO après les inondations de 2020 en attendant l'intervention de l'office des routes. Le directeur provincial de cet office au sud Kivu, l'ingénieur Anissé Kakesatamukombo, dit attendre toujours les moyens pour relancer les travaux de réhabilitation de toute la route nationale numéro 5 depuis Businga dans les escarpements d'Engomo jusqu'à Lulimba en territoire de Fizi où l'on signale une forte dégradation. D'Ouvira Fiston Momayaba, la radio Kapi.
Dans le même chapitre, partons maintenant pour le Kasaï central où la route nationale numéro 20 reliant la ville de Kananga au territoire de Demba est menacée par des têtes d'érosion. Le président de la nouvelle société civile congolaise affirme que les pluies risquent de couper la voie. Albert Ngalamouloumé précise que plus de 5 têtes d'érosion s'approchent de la voie ferrée. Il le dit à François Kadima.
Aujourd'hui, nous avons dénombré lors de notre passage plus de 5 têtes d'érosion qui menacent cette route. Pour arriver à Demba, ce n'est pas facile, c'est un calvaire. Nous avons vu de nos propres yeux comment nos amis transporteurs de charges à vélo, communément appelés payanda, nos amis qui transportent les charges au bord de leur voiture, comment ils souffrent, la route est aujourd'hui impraticable. Pourquoi nous lançons ce cri d'alarme? Parce que cette route, c'est une route d'importance capitale et pour la ville de Kananga et pour le territoire de Demba. Si aujourd'hui, cette route est coupée comme elle est menacée par plusieurs têtes d'érosion, nous ne savons pas comment nos amis, nos compatriotes qui vivent à Demba, comment ils vont faire pour arriver à Kananga, parce que c'est ici à Kananga où ils viennent se ravitailler.
Autre nouvelle en plus bref, 12 personnes tuées, c'est le bilan d'une nouvelle attaque des miliciens de la Codeco hier soir au village de Tsotso, situé à environ 45 km au nord de la ville de Bunia, dans le territoire de Djougou en Ituri. Le chef coutumier affirme que ce drame a suscité tout de suite la colère des habitants qui accusent les FARDC de n'avoir pas protégé les civils. Le porte-parole des FARDC, quant à lui, rassure que les combats sont en cours pour neutraliser ces malfrats. On reste dans la région où les prix des matériaux de construction et des produits de première nécessité ont galopé sur les marchés de la ville de Bunia et dans d'autres centres commerciaux de l'Ituri. De nombreux habitants, paupérisés par la guerre depuis 4 ans, demandent au gouvernement central d'atténuer leurs souffrances. Reportage à Bunia d'Ezekiel Mouzalia.
Certains habitants se disent surpris de constater ce jeudi une hausse exagérée de certains matériaux de construction. Un sac de ciment gris, par exemple, est passé de 11 à 18 dollars, voire 20 dollars américains. Les barres de fer, qui varient autour de 7 à 9 dollars, s'est négocié à 6 dollars. L'écart des prix est considérable, surtout pour les produits de première nécessité, tels que l'huile végétale, le sucre, le sel de cuisine. Un bidon de 20 litres d'huile végétale, qui se vendait à 35, voire 36 dollars, s'est négocié aujourd'hui à 43 dollars. Un habitant exprime son désarroi.
Le ciment s'est négocié entre 17 et 18 dollars. C'est les darans, l'alimentaire, c'est plus constaté que les produits de construction. Parce que si vous voyez même l'huile végétale qui s'est négociée à 35 dollars, aujourd'hui c'est plus de 40 dollars. Il y a aussi rareté. Si on n'approvisionne pas dans l'aide de ces jours aussi, si le gouvernement pas aussi avoir des solutions peut-être palliatives pour nous donner aussi, ça peut nous suffire.
Même le prix des carburants est revu à la hausse. La population s'interroge sur les raisons de cette fluctuation brutale et exagérée sur les marché. Certains commerçants attribuent cette situation notamment à la rareté des produits dans les pays d'importation. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Évaluation de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Les députés nationaux et provinciaux de cette province proposent l'assouplissement. 11 mois après le début de l'état de siège, ils saluent les avancées depuis la mutualisation des forces entre les FARDC et l'armée ougandaise contre les rebelles ougandais de l'ADF. Pour faciliter
assurer la normalisation de la vie et le fonctionnement normal des institutions publiques. Ces députés invitent le président Félix Tshisekedi à commuer l'état de siège en un état d'urgence sécuritaire. Explication de Michel Kifindangoy.
De l'état de siège, les élus provinciaux du Nord qui vous proposent l'instauration de l'état d'urgence sécuritaire avec une administration civile afin de laisser les militaires se focaliser au combat contre l'ennemi au front.
L'Assemblée provinciale du Nord Kivu a toujours sollicité à ce qu'il y ait une mutation de l'état de siège vers l'état d'urgence sécuritaire pour assouplir les opérations. Et ce que nous disons, c'est ce que la population du Nord Kivu pense comme solution.
À en croire les députés nationaux du Nord Kivu, le nombre d'égorgements est aujourd'hui estimé à plus de 1000% qu'avant l'état de siège, sans compter les villages brûlés et près de 50 000 familles déplacées en Ouganda.
Et à la date d'aujourd'hui, il était impérieux pour nous de faire l'état des lieux, de nous parler, eux qui sont au quotidien à Goma et nous qui sommes à Kinshasa, nous qui pouvons encore parler en plénière et eux qui connaissent les problèmes de nos populations mais qui sont muselés depuis l'avènement de l'état de siège.
Notez que le gouvernement a adopté le 4 mars la modification de l'ordonnance portant proclamation de l'état de siège qui consiste notamment à circonscrire l'action répressive des juridictions militaires dans les provinces sous état de siège à des infractions d'une certaine gravité.
Merci Michel Kifindangoy pour ces précisions. Et puis à la faveur d'une ordonnance, le chef de l'État a modifié cette semaine l'ordonnance précédente portant réinstauration de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La nouvelle ordonnance présidentielle autorise les parquets et les tribunaux civils à reprendre le traitement des dossiers en matière répressive à l'exception de quelques-uns. Le procureur de la République près le parquet de grande instance de Butembo au Nord Kivu affirme que cette mesure est conforme à la Constitution et est saluée par des organisations de défense des droits de l'homme dans la région. Radio Okapi, Butembo, Florida Kahambu.
Le réseau pour les droits de l'homme, REDO, indique que la reprise des activités dans les parquets et tribunaux civils est un ouf de soulagement pour les justiciables. Cependant, il invite ses animateurs, qui étaient presque inopérants depuis l'instauration de l'état de siège, à travailler dans le respect de la loi. Maître Mwindo Asivinois est coordonnateur du REDO.
Nous sommes très ravis de cette ordonnance. D'ailleurs, c'était une demande dans plusieurs de nos rapports, puisqu'il y avait beaucoup de préjudices. Nous remercions d'abord le chef de l'État pour ce fait, mais aussi nous appelons les animateurs des juridictions civiles de rester conscients, puisque les instances judiciaires sont toujours accusées de corruption. Nous voulons à ce qu'ils puissent reprendre à travailler dans le respect de la loi.
Les procureurs de la République près le tribunal des grandes instances de Butembo, Valérie Mwali-Lumande, affirme que l'ordonnance du chef de l'État a gardé 11 infractions à la compétence des juridictions militaires. C'est entre autres l'assassinat, le meurtre, les viols, la participation aux mouvements insurrectionnels et autres. Tout en saluant la décision du chef de l'État, Valérie Mwali-Lumande indique que le volume du travail sera un grand défi à relever au regard de l'insuffisance des magistrats dans ces juridictions. Butembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
C'est aujourd'hui la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. À Kindu au Maniema, la coordination provinciale du programme national contre la lèpre et la tuberculose a exprimé le besoin de financement. Hier, mercredi, une journée de souscription pour la mobilisation des ressources a été organisée au profit des décideurs et autres partenaires techniques et financiers pour pouvoir appuyer la lutte contre la tuberculose dans cette province.
Actualité internationale.
Au 29e jour de l'invasion russe en Ukraine, plus de 4 millions d'enfants ukrainiens ont été déplacés. Trois sommets des dirigeants du G7, de l'OTAN et du Conseil européen sont programmés ce jeudi et demain vendredi à Bruxelles en Belgique. Les pays occidentaux membres de l'OTAN ont décidé de consolider ensemble l'arsenal des mesures contre la Russie. Les forces russes assiègent toujours Mariupol, cette grande ville portuaire située au sud du pays, décrite comme un enfer humanitaire. Et puis en Somalie, plusieurs attentats suicides ont frappé mercredi soir la ville de Meledwene, au nord de Mogadiscio. Le bilan dressé par les autorités locales fait état des dizaines de morts. Ces attentats suicides ont été revendiqués par les groupes djihadistes des Shebab, comme ils l'ont fait la journée non loin de l'aéroport. L'une de ces attaques visait principalement une figure de l'opposition au président sortant et des lutte contre l'impunité.
L'invité.
Notre invité, c'est le secrétaire exécutif du Conseil régional des ONGD du Kasaï central. Albert Kyungu affirme que ce consortium vient de produire un recueil d'une centaine d'adages et de proverbes louba sur les femmes qui sont mises en arrière-plan suite aux coutumes avilissantes. Il s'entretient à ces sujets avec François Kadima.
Monsieur Albert Kyungu, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Pourquoi ce recueil sur les adages et proverbes louba autour de la femme?
Le constat a été maintes fois révélé que la participation de la femme, l'engagement de la femme est assez limité. Tout récemment, avec les élections de 2018, nous étions engagés dans un projet de promotion d'éducation civique électorale pour la participation des jeunes et des femmes, avec l'appui, bien entendu, de l'Union européenne. Et dans ce projet, nous nous sommes rendus compte que, comme par le passé, la participation de la femme, elle est limitée et elle n'est pas assez considérable par rapport aux attentes, notamment à tous les standards reconnus d'ailleurs par plusieurs instruments nationaux et internationaux. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui retarde cette participation active de la femme et aussi de jeunes? C'est ce questionnement-là qui nous a conduit à comprendre qu'il y a certaines coutumes, certaines traditions, certaines pratiques coutumières qui sont à la base, qui bloquent sensiblement la femme, notamment dans l'espace Kasaï, et qui l'empêchent à s'engager, à participer activement. Alors on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire face à ces coutumes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prendre l'arme pour combattre une coutume? Est-ce qu'il faut prendre les armes les plus sophistiquées pour combattre les croyances de coutumes? On s'est rendu compte, non. La manière de vivre d'un peuple, comme ce sont des constructions sociales, comme ce sont des conventions d'un peuple, il faut trouver dans le même peuple, dans sa manière de vivre, s'il n'y a pas d'autre manière de vivre qu'on peut promouvoir. On a senti que ces coutumes et traditions qui freinent la participation de la femme sont encadrées par des proverbes.
Vous n'êtes pas opposé aux coutumes alors?
Ah, pas du tout, pas du tout. Nous le disons d'ailleurs à l'introduction, disons que ce ne sont pas toutes les coutumes qui sont mauvaises. Dans la coutume, il y a toujours des bonnes choses. Cette manière de vivre du peuple kasaïen, d'ailleurs, c'est vanté un peu plus partout, mais de plus en plus, on sent que c'est plutôt des mauvaises coutumes, des mauvaises pratiques coutumières, voilà, qui sont en train d'être vantées. Et ce sont ces pratiques-là qui bloquent la femme. Nous nous sommes engagés à mener des recherches communautaires, anthropo-sociologiques, dans la communauté, pour trouver les valeurs coutumières positives qui encouragent, qui soutiennent, qui favorisent, qui stimulent, bien entendu, la participation de la femme. Et c'est à cette tâche-là que nous sommes livrés dans le cadre de ces projets, bien entendu. Et ça nous a permis de collecter, au bout de plus de 6 mois de recherche, le premier condensé que nous avons ici compilé dans ces recueils, près de 100 adages, proverbes, qui encouragent, qui soutiennent, qui stimulent la participation active et responsable de la femme. Et c'est de là qu'est venue l'idée et qui a conduit aujourd'hui à la compilation de ces adages que nous mettons aujourd'hui à la place publique.
Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. La femme est génétrice de la vie. Mais le souci, c'est aider à la participation des femmes jeunes à la gouvernance. Comment cela peut se faire?
Nous avons trouvé qu'il faut vulgariser les valeurs positives de la culture kasaïenne qui encourage. Il faut faire passer ses idées en premier. Et c'est comme ça que ces recueils, nous les mettons à la disposition de tous les lieux et les agents de socialisation. Les églises, les écoles, les acteurs sociaux, tous ces agents de socialisation-là, qu'ils prennent, qu'ils s'en approprient ces recueils et qu'ils commencent à disséminer ces idées dans la population. Nous disons par exemple, Bwambila Mukaji, Bwambili Tunga, ce que la femme a appris, c'est plutôt pour l'intérêt général. Généralement, on cache certaines informations. Il y a des choses qu'on ne donne pas à la femme. Quand vous allez dans les valeurs négatives, on vous dit « Bakaji bakule abifong ». C'est que les femmes s'occupent des champs qui concernent la gestion de la cité, les affaires d'État. Non, les femmes ne doivent pas toucher à ça. Vous voyez? C'est plutôt dans ces méandres-là que nous sommes allés tomber. On s'est dit, non, laissons ceux qui excluent la femme, ceux qui dénigrent la femme, ceux qui repoussent la femme. Faisons plutôt la promotion de ceux qui encouragent. Quand on vient, par exemple, dans un village, on parle, par exemple, qu'il faut assainir, qu'il faut éduquer, qu'il faut la moustiquaire, qu'il faut ceci. Dès que la femme a l'information, c'est pour le bien de la communauté. À l'inverse de l'homme, quand on me dit la moustiquaire, peut-être je risque de même pas expliquer à madame comment on étale la moustiquaire, comment on fait tout ça. Même la question des planning familiales, toutes ces questions-là sont véhiculées dans nos croyances, dans nos traditions. Donc il y a beaucoup de valeurs comme ça que nous avons trouvées, qui encouragent, qui stimulent. Il y a autant d'adages et de proverbes qui s'adressent à la femme elle-même. Il y a beaucoup d'adages qui les encouragent dans ce sens.
Monsieur Albert Kyungu, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, le secrétaire exécutif du Conseil régional des ONGD du Kasaï central. Albert Kyungu était interviewé à Kananga par François Kadima. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 18h20. Infiniment merci à Alain Erung Mouchige et Élisée Tikotamwamboui qui m'ont appuyé dans la préparation de ce produit. Retrouvez-les sur www.radiokapi.net.